La porte s'ouvrit, mais personne ne semblait être là pour l'ouvrir. Pipin se trouva à regarder dans une grande salle. Elle était éclairée par de profondes fenêtres dans les larges allées latérales qui s'étendaient de part et d'autre, derrière les rangées de hauts piliers supportant la voûte. Monolithes de marbre noir, ils s'élevaient vers de grands chapiteaux sculptés en forme d'animaux et de feuillages étranges et variés. Et loin dans l'ombre du vaste plafond, se devinait un reflet d'or mat. Le sol était de pierre polie, d'un blanc miroitant, incrusté d'élégants dessins multicolores. Point de tenture ni de tapisserie historiée, point d'objet de tissu ou de bois ne se voyait dans cette longue et solennelle salle. Mais entre les colonnes se dressait une compagnie silencieuse de hautes statues gravées dans la pierre froide. Pipin se rappela soudain les rochers sculptés des Argonathes, et un sentiment de crainte révérencieuse l'envahit en regardant cette grande procession de rois morts depuis longtemps. Au fond de la salle, sur une estrade précédée de nombreuses marches, se trouvait un haut trône placé sous un dais de marbre en forme de heaume couronné. Et sur le mur était gravée l'image d'un arbre en fleurs, tout incrusté de gemmes. Mais le trône était vide. Au pied de l'estrade, sur la plus basse marche, laquelle était large et profonde, il y avait un siège de pierre, noir et sans ornement, et un vieillard y était assis, le regard baissé sur son giron. Il avait à la main un bâton de couleur blanche, garni d'un pommeau d'or. Il ne leva pas les yeux. D'une démarche solennelle, ils montèrent la longue allée jusqu'à lui et s'arrêtèrent à trois pas de son marchepied. Puis, Gandalf parla.
« Je vous salue, Denethor, fils d'Ecthelion, seigneur et intendant de Minas Tirith. J'apporte des conseils et des nouvelles en cette heure sombre. »
Le vieillard leva alors la tête. Pipin put voir son visage ciselé, la fierté de ses traits, sa peau d'ivoire, le long nez recourbé entre les yeux noirs et profonds, et ils ne lui rappelèrent pas tant Boromir qu'Aragorn.
« L'heure est certes sombre, » dit le vieillard, « et c'est en pareil moment que nous avons coutume de vous voir, Mithrandir. Mais si tous les signes laissent entrevoir la ruine prochaine du Gondor, il me semble aujourd'hui moins noir que ma propre noirceur. Il m'a été rapporté que vous amenez quelqu'un qui a vu mourir mon fils. Est-ce lui ?»«
Oui, » dit Gandalf, « l'un des deux. L'autre se trouve auprès de Théoden du Rohan, et il viendra peut-être. Ce sont des demi-hommes, comme vous le constatez, mais lui que vous voyez n'est pas celui dont parlaient les présages. »
« Il n'en est pas moins un demi-homme, » dit sévèrement Denethor, « et ce nom ne m'est pas bien doux à entendre depuis que ces paroles maudites sont venues troubler nos conseils et ont emporté mon fils dans la folle mission qui lui a coûté la vie. « Mon Boromir, que nous avons besoin de toi à présent. Faramir aurait dû partir à sa place. »«
Il l'aurait fait volontiers, » dit Gandalf. « Ne soyez pas injuste dans votre deuil. Boromir a revendiqué cette mission et ne pouvait souffrir qu'elle soit confiée à aucun autre que lui. Autoritaire par nature, il était homme à prendre ce qu'il désirait. J'ai longuement voyagé avec lui et j'ai beaucoup appris sur son tempérament. » « Mais vous parlez de sa mort. Vous avez eu vent de cela avant notre venue ?»«
J'ai reçu ceci, »
dit Denethor, posant le bâton blanc et prenant dans son giron l'objet sur lequel ses yeux étaient fixés un instant plus tôt. Il leva dans chaque main une moitié d'un grand corps fendu au milieu, une corne de bœuf sauvage cerclée d'argent.
« C'est le corps que Boromir portait toujours ?» s'écria Pipin.
« Celui-là même, » dit Denethor. « Et je l'ai porté en montant, comme chacun des aînés de notre maison, depuis les siècles disparus d'avant la fin des rois, au temps où Vorondil, père de Mardil, chassait les bœufs sauvages d'Arau dans les lointaines prairies du Rhône. Je l'ai entendu appeler faiblement sur nos marches septentrionales il y a 13 jours. » Et le fleuve me l'a apporté brisé en deux. il ne sonnera plus. »
Il marqua une pause et il eut un lourd silence. Soudain, ses yeux noirs se tournèrent vers Pipin.
« Que dites-vous de cela, demi-homme ?»«
13 jours, 13 jours, »
balbutia Pipin.
« Oui, je crois que ça doit être cela. Oui, j'étais à côté de lui quand il a sonné de son corps. Mais aucune aide n'est venue, seulement d'autres orques. »
« Ainsi donc, » fit Denethor, examinant Pipin avec attention, « vous étiez là. Dites-moi davantage, pourquoi aucune aide n'est-elle venue, et comment en avez-vous réchappé, alors que lui n'a pas pu, un homme de sa trempe, avec de simples orques pour lui tenir tête ?»
Pipin rougit et oublia sa peur.
« Le plus vaillant des hommes peut mourir d'une seule flèche, »
dit-il.
Et Boromir en a reçu beaucoup. Quand je l'ai vu pour la dernière fois, il s'était effondré contre un arbre et il retirait de son côté une flèche aux pennes noires. Puis j'ai perdu connaissance et j'ai été fait prisonnier. Je ne l'ai plus revu et je n'en sais pas davantage. Mais j'honore sa mémoire, car il a été très brave. Il est mort pour nous sauver, mon cousin Meriadoc et moi-même, assaillis en plein bois par les soldats du Seigneur Sombre. Et s'il est tombé et a échoué, « ma gratitude n'en est pas moins grande. »
Alors Pipin regarda le vieillard bien en face, car il se sentit remué par un curieux accès d'orgueil, blessé par le mépris et la suspicion qu'il avait perçue dans cette voix glaciale.
« Aux yeux d'un si grand seigneur des hommes, le service d'un hobbit, d'un demi-homme du Nordique compté, comptera sans doute pour peu de choses. Mais si infime soit-il, je l'offre tout de même en paiement de ma dette. »
Rejetant nerveusement sa cape grise, Pipin tira sa petite épée et la déposa aux pieds de Denethor. Un pâle sourire, comme un froid rayon de soleil par un soir d'hiver, passa sur les traits du vieillard. Mais il baissa la tête et lui tendit la main, déposant les fragments du corps.
« Donnez-moi cette arme !»
dit-il. Pipin la souleva et lui présenta la garde.
« D'où vient cet objet ?»
s'enquit Denethor.
Maintes et maintes années pèsent sur lui, assurément. Il s'agit là d'une lame forgée dans un lointain passé par nos parents du Nord.
Elle vient des monticules qui se dressent aux frontières de mon pays,
dit Pipin.
Mais seuls de mauvais esprits y habitent à présent, et je préfère ne pas en dire plus long.
Je vois que d'étranges récits sont tissés tout autour de vous, dit Denethor. Et il se vérifie une fois de plus que les apparences peuvent tromper sur l'homme ou sur le hobbit. J'accepte votre service, car les mots ne vous intimident pas, et votre discours est plein de courtoisie, aussi étrange puisse-t-il nous paraître à nous, habitants du Sud. Et nous aurons grand besoin de gens courtois, grands ou petits, dans les jours à venir. Maintenant, prêtez-moi serment. Prenez la poignée. « Et répétez après le Seigneur si votre résolution est ferme, »
dit Gandalf.
« Elle l'est !»
dit Pipin. Le vieillard plaça l'épée en travers de ses genoux, et Pipin mit la main sur la poignée et répéta lentement les mots de Denethor.
« Je jure ici fidélité et allégeance au Gondor et au Seigneur et intendant du royaume de parler et de me taire, d'agir et de laisser faire, de venir et d'aller, dans le besoin ou l'abondance, la paix ou la guerre, dans la vie comme dans la mort, et ce, dès la présente heure, jusqu'à ce que mon Seigneur me libère, ou que la mort me prenne, ou que le monde expire. Telle est ma parole à moi, Pérégrin, fils de Paladin, du comté des demi-hommes. »
Et je l'entends, moi, Denethor, fils d'Ectelion, seigneur du Gondor, intendant du grand roi. Et je ne l'oublierai pas, comme je ne manquerai pas de récompenser ce qui est donné. La fidélité par l'amour, la valeur par l'honneur, le parjure par la vengeance. »
Alors Pipin reçut de nouveau son épée et la remit au fourreau.
« À présent, » dit Denethor, « voici mon premier ordre. Parlez et ne tarissez point. « Faites-moi votre récit au long et tâchez de vous rappeler tout ce que vous pourrez concernant Boromir, mon fils. Asseyez-vous maintenant et commencez. »
Et se disant, il frappa un petit gong d'argent qui se trouvait près de son marchepied, et les serviteurs accoururent aussitôt. Pipin vit alors qu'ils se tenaient dans des niches de chaque côté de la porte, invisibles aux yeux de ceux qui entraient.
« Apportez du vin, de la nourriture et des sièges pour les invités !»
dit Denethor.
« Et veillez à ce que nul ne nous dérange dans la prochaine heure. C'est là tout le temps dont je dispose, car je dois voir à bien d'autres affaires, »
dit-il à Gandalf.
« Bien d'autres et de plus importantes à première vue, quoique moins pressantes à mes yeux. Mais peut-être pourrons-nous nous reparler en fin de journée. »
« Et plutôt que cela, espérons-le, » dit Gandalf, « car je ne suis pas venu ici, d'Isengard, sur 150 lieues, vif comme le vent, à seule fin de vous amener ce petit guerrier, aussi courtois puisse-t-il paraître. Est-ce rien pour vous si je vous dis que Théoden a livré une grande bataille, que l'Isengard a été vaincu, et que j'ai brisé le bâton de Saruman ?»«
C'est beaucoup pour moi, mais j'en sais déjà suffisamment à ce sujet pour guider ma conduite contre la menace de l'Est. »
Il posa ses yeux sombres sur Gandalf, et Pipin vit alors une ressemblance entre les deux hommes, et il sentit la tension entre eux, presque comme si une traînée de braise se dessinait entre leurs deux regards et menaçait de s'enflammer tout à coup. Denethor faisait penser à un grand magicien, beaucoup plus que Gandalf en fait, plus royal, plus beau, plus puissant, plus vieux aussi. Néanmoins, par un sens autre que la vue, Pipin percevait que Gandalf détenait le plus grand pouvoir, la sagesse la plus profonde et une majesté voilée. Et il était plus vieux, beaucoup plus vieux. « De combien plus vieux ?» se demanda-t-il. Mais le plus étrange était qu'il ne s'était jamais posé la question avant. Barbe-Bois leur avait parlé des magiciens, mais même alors, il ne s'était pas avisé que Gandalf pouvait être considéré comme tel. Qu'était Gandalf? Dans quel lieu reculé, à quelle époque lointaine était-il venu au monde? Et quand le quitterait-il? Puis le Hobbit sortit de sa rêverie et il vit que Denethor et Gandalf étaient toujours à s'entre-regarder, comme si chacun lisait dans les pensées de l'autre. Mais ce fut Denethor qui, le premier, détourna le regard.
« Oui, » reprit-il, « car bien que les pierres soient perdues, dit-on, la vue des seigneurs du Gondor reste tout de même plus pénétrante que celle des hommes de moindre stature, et bien des messages leur parviennent. Mais asseyez-vous à présent. »
Des hommes apportèrent alors une chaise et un tabouret bas, et sur un plateau une cruche et des coupes d'argent, ainsi que des gâteaux blancs. Pipin s'assit, sans pouvoir détourner le regard du vieux seigneur. Était-ce le fruit de son imagination? Ou bien y avait-il eu dans l'œil de Denethor un soudain reflet dirigé vers lui lorsqu'il avait été question des pierres?
« Maintenant, faites-moi votre récit, mon homme lige, »
dit Denethor d'un ton mi-bienveillant, mi-moqueur.
« Car les paroles seront certes bienvenues de qui s'est attiré de la part de mon fils une si grande considération. »
Pipin n'oublia jamais cette heure passée dans la grande salle sous le regard perçant du seigneur du Gondor, souvent taraudé par ses habiles questions, et toujours conscient de la présence de Gandalf à ses côtés, écoutant, observant et, se dit Pipin, tentant de contenir une colère et une impatience grandissantes. Une fois l'heure écoulée, quand Denethor donna un nouveau coup de gong, Pipin était à bout.
« Il ne peut pas être plus de 9 heures, » se dit-il. « Je pourrais maintenant engloutir 3 petits déjeuners de suite. »«
Conduisez le seigneur Mithrandir aux appartements préparés pour lui, » dit Denethor. « Son compagnon peut loger avec lui pour le moment s'il le désire. Mais qu'il soit dit et su que je l'ai attaché à mon service. Il sera connu sous le nom de Pérégrin, fils de Paladin, et les mots de passe secondaires lui seront enseignés. Faites savoir au capitaine qu'ils seront attendus ici aussitôt que possible dès la 3e heure sonnée. Et vous, monseigneur Mithrandir, pourrez venir aussi à l'heure et en la qualité que vous voudrez, Nul ne vous empêchera de venir à moi à tout moment, sauf dans mes brèves heures de sommeil. Laissez passer votre colère contre la folie d'un vieil homme et revenez pour mon réconfort. »
Folie ? Dit Gandalf.
Non pas, monseigneur. Quand vous serez gâteux, vous mourrez. Même votre deuil peut vous servir de manteau. Croyez-vous que je ne sache pas pourquoi vous interroger pendant une heure, celui de nous deux qui en sait le moins, pendant que je reste assis en retrait ? Si vous le comprenez, soyez satisfait, repartit Denethor. Folle est celui qui, par orgueil, dédaignerait votre aide et vos conseils en pareille nécessité. Mais vous dispensez vos bienfaits selon vos propres desseins. Or, le seigneur du Gondor ne saurait se faire l'instrument des desseins des autres, aussi noble soit-il. Et pour lui, il n'est pas de cause plus élevée de nos jours dans le monde que celle du Gondor. Et l'autorité du Gondor, monseigneur, m'est échue à moi et à nul autre, sauf si le roi revenait.
Si le roi revenait, répéta Gandalf.
Eh bien, monseigneur l'intendant, votre tâche n'est-elle pas de conserver une parcelle de royaume en prévision de cet événement que peu de gens espèrent encore voir? Pour ce faire, vous recevrez toute l'aide qu'il vous plaira de demander. Mais je dirai ceci. Aucun royaume n'est sous mon autorité, ni le Gondor ni aucun autre, grand ou petit. Toute chose de valeur dans le monde, toutes celles qui sont aujourd'hui en péril, voilà ce qui m'occupe. Et pour ma part, je n'aurais pas entièrement failli à ma tâche. Le Gondor dut-il disparaître, s'il survit à cette nuit la moindre chose encore capable de beauté ou de porter fleurs et fruits dans les jours à venir. Car je suis moi-même un intendant. Ne le saviez-vous pas ?
Et sur ce, il se détourna et sortit de la salle à grands pas, et Pipin le suivit courant à ses côtés. Gandalf ne lui adressa pas un mot en chemin, ni le moindre regard. Leur guide les accueillit aux portes de la salle, puis il leur fit traverser la cour de la fontaine jusqu'à une ruelle entre de hauts édifices de pierre. Après plusieurs tournants, ils arrivèrent à une maison située près du mur nord de la citadelle, non loin de l'épaulement qui reliait la colline à la montagne. À l'intérieur, il les mena par un long escalier sculpté au premier étage au-dessus de la rue et à une jolie pièce, claire et aérée, décorée de belles tentures d'un tissu uni, aux reflets d'or mat. Sommairement meublée, elle n'était pourvue que d'une petite table avec deux chaises et un banc. Mais deux alcôves étaient aménagées de chaque côté, fermées par des rideaux. Et à l'intérieur, se trouvaient des lits bien fournis, ainsi que des récipients et des cuvettes pour se laver. Trois hautes fenêtres étroites regardaient au nord par-dessus la grande boucle de Landuin, encore enveloppée de brume, vers les Éminuil et le lointain Rauros. Pipin dut monter sur le banc afin de regarder par-dessus le large rebord de pierre.
« Êtes-vous fâché contre moi, Gandalf ? »
demanda-t-il, alors que leur guide sortait et refermait la porte.
« J'ai fait de mon mieux. »«
Assurément, »
dit Gandalf avec un rire soudain. Et le vieillard s'approcha et se tint près de lui, posant son bras sur ses épaules et regardant par la fenêtre. Pipin tourna un regard quelque peu étonné vers le visage maintenant tout près du sien, car le son de ce rire avait été joyeux. Il ne vit là d'abord que des plis de chagrin et d'inquiétude. Mais en y regardant plus attentivement, il perçut que sous les traits du magicien se cachait une grande gaieté. Une fontaine de joie, capable de soulever tout un royaume d'allégresse, dut-elle jaillir soudain.
« Assurément, vous avez fait de votre mieux, » reprit le magicien. « Et j'espère qu'il faudra longtemps avant de vous voir de nouveau pris entre deux aussi terribles vieillards. N'empêche, le seigneur du Gondor aura plus appris de vous que vous ne le croyez, Pipin. Vous n'avez pas pu lui cacher que Boromir n'a pas dirigé la compagnie au sortir de la Moria, qu'il y avait parmi vous une personne de haut rang qui se rendait à Minas Tirith et qu'elle maniait une épée de renom. Au Gondor, on pense beaucoup aux histoires de l'ancien temps, et Denethor a longuement médité les vers où il était question du fléau d'Isildur depuis que Boromir est parti. Il n'est pas semblable aux hommes de son temps, Pipin, et quelle que soit sa lignée de père en fils, le hasard a voulu que le sang de l'Occidental coule en lui presque franc, comme c'est le cas chez son deuxième fils Faramir, mais non chez Boromir, son préféré. Il a la vue longue. Il peut discerner, pour peu qu'il y dirige sa volonté, une grande part de ce qui agite l'esprit des hommes, même ceux qui demeurent au loin. Il est difficile de l'abuser et périlleux d'essayer. Souvenez-vous-en, car vous êtes maintenant lié à son service. Je ne sais ce qui vous a mis cette idée en tête ou comment elle s'est imposée à votre cœur, mais c'était un geste noble. Je ne l'ai pas empêché, car un acte généreux ne devrait pas être entravé par de froides recommandations. Votre geste l'a touché, en plus de le flatter, si je puis me permettre. Et au moins, vous voilà libre d'aller où bon vous semble à Minas Tirith, quand vous ne serez pas de service. Car il y a un revers à cette médaille. Vous êtes sous son commandement, et il ne l'oubliera pas. Restez sur vos gardes. »
Il s'arrêta et soupira.
Eh bien, inutile de ruminer sur ce que demain pourrait apporter, car demain sera certainement pire qu'aujourd'hui, pour bien des jours encore, et je ne puis rien faire d'autre qui y changerait quoi que ce soit. L'échiquier est prêt, et les pièces sont en mouvement. Il en est une que je désire vivement trouver, Faramir, le nouvel héritier de Denethor. Je ne crois pas qu'il soit dans la cité, mais je n'ai pas eu le temps d'aller aux nouvelles. Je dois partir, Pipin. Il faut me rendre à ce conseil des seigneurs pour y apprendre ce que je pourrai. Mais l'ennemi a le trait, et il est sur le point d'ouvrir son jeu, et il est probable que les pions en verront tout autant que les autres. Pérégrin, fils de paladin, soldat du Gondor, affûtez votre lame. »
Gandalf alla à la porte et se retourna.
« Je dois me hâter, Pipin, » dit-il. « Soyez gentil quand vous ressortirez, avant même de vous reposer, si vous n'êtes pas trop fatigué. Allez trouver Scadufax pour voir comment il est logé. Ces hommes sont tendres avec les bêtes, car ils sont sages et bienveillants. Mais pour le soin des chevaux, ils sont moins doués que d'autres. »